J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Virginie.
Bonjour Lucille.
Bienvenue dans Palabre en forêt pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va accueillir deux personnes. Donc, bonjour Aïcha.
Bonjour.
Donc, tu es étudiante et stagiaire chimiste à l'INRA et tu travailles en association avec l'Université de Montpellier.
Vous venez nous parler aujourd'hui de vos stages qui s'inscrivent sur un thème dont Aymeric Sulmont nous a parlé à la dernière émission et qu'on avait commencé à aborder avec Nathalie Trémel dans Palabre en forêt. C'était l'émission numéro 10 et que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le site internet de Radio Bartas. Le gémage du pain maritime, c'est le sujet du jour. Et on va parler avec toi, Aïcha, de la valorisation de la résine de pain maritime dans la chimie verte. Alors, peut-être... Pour rappeler aux auditeurs, oui. Tu peux nous dire,
oui.
Lucille.
Pour vous rappeler un petit peu, donc les chartes forestières de territoire, les élus et les partenaires forestiers sud-Lozère et du pays des Cévennes travaillent ensemble sur la valorisation du pin maritime parce que c'est un arbre qui n'est pas bien aimé chez nous, alors qu'il est très présent, quand même, faut le rappeler. Donc dans les réflexions, l'idée c'était que ce serait par sa valorisation que sa sylviculture pourrait être améliorée. Et donc de là, on a eu une idée qui est
le gémage, qui est l'acte de récolter la résine de pin maritime. Et ça, voilà, c'est ce qui a émergé à ce moment-là. Et à la suite, avec une rencontre donc avec la station thermale des Fumades, c'est une station thermale dans le Gard, il s'est trouvé que les gérants de cette station, non seulement ils étaient intéressés pour utiliser des essences forestières dans les soins thermaux, et en plus, ils connaissaient l'usage du pin maritime, notamment sa résine.
Donc, les CFT ont débroussaillé en prenant une mission d'étudiants à l'école des mines d'Alès, donc sur 5 semaines. Et en conclusion, les élus et les partenaires se sont dit « Oui, c'est intéressant de voir si cette activité pourrait fonctionner. » Voilà comment Aïcha et Léo se sont retrouvés ici aujourd'hui.
Et alors, on va d'abord un peu parler de vous, juste avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors Aïcha, de quelle formation viens-tu ?
J'ai fait une licence en agrosciences à l'Université de Maurice. Je viens de l'île Maurice. Et j'ai complété ce premier diplôme avec une licence professionnelle en agronomie à l'Université de Lorraine. Et là, actuellement, je suis en master biologie, parcours ingénierie biomoléculaire et nanobiotechnologie à l'Université de Montpellier. Et c'est dans le cadre de cette formation que je suis en stage à INRAE.
Et alors, pourquoi suis-tu cette formation, même si on a une petite idée, ce serait pour quel métier ?
Alors, cette formation, déjà, ça couvre un large éventail de métiers, que ce soit en recherche et développement, dans les domaines de diagnostic. Et moi, j'ai un peu depuis le début de mes études, je m'intéressais beaucoup avec des approches biotechnologiques répondant à des problématiques agroécologiques. Et comme je suis très passionnée par ça, je souhaiterais poursuivre par une thèse sur des thématiques de recherche sur l'agriculture durable. Et enfin, d'être ingénieur de recherche en jeu.
Ça a l'air passionnant. Et alors, quel est ton sujet de stage ? Avec qui travailles-tu ?
Alors, le sujet de stage. Déjà, c'est sur la caractérisation de la composition chimique des résines terpéniques de pin maritime des Cévennes. L'objectif principal de ce stage, c'est d'analyser la composition chimique de l'essence térébenthine et de la colophane obtenue par gémage de pin planté dans différentes stations de Cévennes. Donc moi, je vais m'intéresser principalement aux composés terpéniques qui permettent de décrire la qualité d'essence térébenthine et de la colophane. Et ensuite, grâce aux analyses, j'aurai une idée de la qualité de la résine de pin de Cévennes et je peux la comparer avec des résines déjà exploitées, par exemple celle des pins de Landes. Et ensemble, je vais pouvoir regarder l'impact écologique des différents systèmes, des différents écosystèmes des stations de Cévennes, tels que le climat, l'âge, la topographie, et ou encore la pression parasitaire sur la composition thermique des résines. Voilà. Et ce stage, en fait, je réalise ce stage sous la direction de Pascal Chalier, qui est enseignante chercheuse à l'Université de Montpellier, et Peggy Rigou, qui est ingénieure de recherche à INRAE. Et elles s'intéressent toutes les deux aux composés terpéniques, leur genèse, leur valorisation, mais aussi au développement de méthodes durables pour l'extraction et la caractérisation de ces composés.
Et plus précisément, donc les missions que tu mènes en ce moment, quelles sont-elles ?
Alors en ce moment-là, je suis en train de travailler sur la mise au point et l'optimisation de la méthode d'extraction des composés terpéniques de la résine. J'utilise la résine de pin maritime des Landes comme échantillon test. En fait, il y a plusieurs paramètres à optimiser dans le procédé d'extraction, le rendement, la sélectivité de l'extraction, la quantité d'échantillons à extraire afin de garantir une homogénéité et d'avoir plus de sensibilité de la réponse. Et aussi, je travaille sur la mise au point de la méthode d'identification et de quantification des différents composés par chromatographie en phase gazeuse. En fait, nous essayons de développer des méthodes qui soient le plus respectueuses de l'environnement, en essayant de réduire, voire même carrément enlever l'utilisation des solvants chimiques, ici de la pétrochimie au profit des solvants biosourcés ou des solvants effectifs. Alors cela s'inclut vraiment dans l'ambition chimie verte du projet.
Et du coup, peux-tu nous expliquer un petit peu plus précisément ce qu'est la chimie verte ?
Alors, le concept de chimie verte, aussi connu sous le nom de Green Chemistry, a été développé aux États-Unis en 1990. C'est surtout dans le but d'offrir un cadre à la prévention de la pollution liée aux activités chimiques. La chimie verte a pour but de concevoir ou de développer des produits et des procédés chimiques permettant de réduire ou éliminer l'utilisation et la synthèse des substances dangereuses. Quand je dis dangereuses, c'est pris au sens le plus large. Ça peut être danger physique, toxicologique ou même global qui concerne la destruction de couches d'ozone et du coup qui mène vers le changement climatique. On trouve en fait plusieurs principes de chimie verte. Et c'est dans le cadre de ce dernier principe de chimie verte que s'inscrit également le projet de GEMAS, c'est-à-dire d'utiliser moins de solvants ou même éliminer certains solvants.
Et on parle beaucoup en ce moment aussi, on parle de la bioéconomie. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, c'est différent de la chimie verte, la bioéconomie, c'est quelque chose de plus large, la chimie verte s'inscrit dans la bioéconomie ?
La bioéconomie, justement, elle englobe l'ensemble des activités de production et de transformation de la biomasse, qu'elle soit forestière, agricole ou aquacole, à des fins de production alimentaire. Donc, notre projet s'inscrit bien dans ces deux domaines, en fait, dans la chimie verte et la bioéconomie.
Et ton stage se réalise sur quelle période ? Quand est-ce que tu finis ?
Mon stage, je viens de commencer le stage, en fait, il y a un mois.
D'accord.
Et il me reste encore 4 mois de travail. Au début, je me suis familiarisée avec le projet tout en établissant une étude bibliographique. Et ensuite, je viens de débuter la mise au point de méthodes pour la caractérisation de la résine. Et une fois la méthode développée et validée, je procéderai à l'analyse des échantillons récoltés en Cévennes. Et ensuite, il y aura une grosse quantité de données à traiter, à analyser.
Et quelles sont les structures et les partenaires que tu as pu déjà rencontrer ?
Alors, j'ai rencontré les syndicats mixtes des pays de Cévennes, qui d'ailleurs coordonnent le projet et qui ont permis de regrouper les différents acteurs de ce projet. Il y a aussi les partenaires de l'Organisme national des forêts qui apportent leurs expertises sur les zones forestières et qui sont chargés d'identifier les différentes versions pour ma campagne, la campagne de Gémage. Ensuite, je travaille aussi en étroite collaboration avec le stagiaire ingénieur forestier Léo. Et puis enfin, les partenaires de la société Olis qui sont en charge de mettre en place la méthode de Gémage bio-certifiée sur les pins dans les stations forestières qui auront été choisies.
Pour expliquer à nos auditeurs, Olis, c'est un laboratoire. Ils sont basés en Saône-et-Loire et ils ont mis un point, un programme de gémage et comme vient de le dire Aïcha, éco-certifié. Et on est partenaire. Voilà.
Dans la résine, on trouve deux molécules, deux essences, la térébenthine et le colophane. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'utilisation de ces molécules-là?
Alors, tout à fait, l'essence de térébenthine est une huile essentielle obtenue après la distillation de la gemme. Et cette huile essentielle a des propriétés oxygénantes, antiseptiques, antalgiques, et ça peut être utilisé en cas de toux, de congestion respiratoire et d'infection respiratoire comme la sinusite, l'asthme ou la bronchite. Après, on l'utilise aussi dans la formulation de nombreux autres produits tels que la peinture, vernis, les produits d'entretien ou même des produits pharmaceutiques.
D'accord, donc des débouchés vastes et variés.
Et la colophane?
Et la colophane, c'est le résidu qu'on obtient après distillation. Donc, sous forme brute, la colophane est utilisée en instrument de musique à cordes frottées. Notamment dans le sport pour la grimpe, la danse, pour améliorer l'accroche. Et sinon, les acides terpéniques contenus dans la colophane permettent d'obtenir, après transformation, des vernis, des peintures, des adhésifs et des cosmétiques, des chewing-gums et en émulsifiant.
D'accord. Eh bien, large d'utilisation. Et alors, pour toi, à ce stade, est-ce que tu vois un avenir pour le gémage dans les Cévennes? Et pourquoi?
Alors, pour l'instant, nous avons peu de visibilité. Mais si nous arrivons à prouver que les pins maritimes ont un bon rendement de production en résine et que celle-ci est riche en composés terpéniques et donc valorisable, cela envisagera différentes applications, des débouchés, création d'emplois ou même une meilleure valorisation des forêts de pins maritimes, parfois laissées à l'abandon.
Donc merci beaucoup Aïcha, et on va finir par un petit mot forestier.
Alors, on dit souvent que Mark Twain rapporte une légende selon laquelle l'île Maurice fut créée d'abord et ensuite le paradis fut copié sur l'île Maurice. Mais comment préserver ce paradis végétal? Il est essentiel que chaque citoyen ait conscience des enjeux et se considère comme un acteur du développement durable. Merci.
Merci Aïcha.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Et avant de rejoindre Léo Husson de l'Office national des forêts, on rejoint le groupe très masculin de La Femme avec Foutre le bordel.
Donc de retour dans l'émission Palabre en forêt sur Radio Barthas 107 FM, et donc nous allons retrouver Léo Husson. Bonjour Léo.
Bonjour.
Alors, de quelle formation viens-tu ?
Alors, après mon bac, je me suis dirigé vers une licence de géographie et aménagement du territoire à l'université Picardie Jules Verne à Amiens, et avec une spécialité environnement. Après la licence, j'ai poursuivi à Amiens tout simplement dans un master d'agrosciences territoire paysage forêt. En spécialisation dynamique et géographie des territoires pour atteindre un bac plus 5. Donc là, je suis en bac 4,5, on va dire, pour l'instant, pour attendre de finir l'année.
Et pourquoi suis-tu cette formation ? Quel est le métier ?
On va dire que c'est au lycée que, naturellement, en fait, les questions de problématiques environnementales me sont venues à moi, et puis c'est aussi quelque chose qui est de nos jours assez ouvert et auquel nous avons beaucoup d'informations. Et nous, les jeunes, nous sommes sensibilisés, on va dire, un peu plus qu'à ces questions. Et c'est un peu naturellement que je me suis dirigé vers la géographie, où ça me permettait d'avoir aussi bien un aspect environnemental, mais aussi tout en gardant le côté social. Et on va dire que c'était le plus adapté en fonction de mon bac et des résultats que j'ai obtenus et de ce que je voulais faire, on va dire.
Et alors, on le rappelle, tu travailles donc pour l'Office National des Forêts, l'ONF, et tu es basé à la Grand-Combe. Et quel est le sujet de ton stage alors ? Et avec qui travailles-tu ?
Donc, le sujet de mon stage, c'est une pré-étude de faisabilité sur la mise en place d'une filière de gémage sur le pin maritime en Cévennes. Donc, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près, 150 ans, il n'y avait pas vraiment de forêt, en Cévennes et autour de la Grand-Combe, dans ces environs. C'est suite au déclin de l'industrie minière que les mineurs ont planté la forêt, et de nos jours, on se retrouve avec une quantité énorme de pin maritime qu'il faut valoriser. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place une filière pour voir si c'est faisable, en fait, tout simplement.
Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le gémage?
En fait, le gémage, c'est tout simplement c'est l'extraction de la résine du pin. Donc, chaque pin produit sa propre résine. Et donc là, en l'occurrence, c'est le pin maritime qui nous intéresse. Et donc, de cette résine, on en tire deux, on va dire, molécules. Donc, c'est la térébenthine et la colophane. Et de ça, on peut en faire de multiples procédés, des cols, des désinfectants, des huiles essentielles, et ça touche, on va dire, vraiment plusieurs domaines d'activité.
Et peux-tu nous dire où est-ce qu'on gème en France et voire peut-être dans le monde ?
Alors, en France, le gémage se situe principalement dans le golfe de Gascogne, on va dire sur la forêt landaise, où c'est une pratique ancestrale qui n'a jamais, on va dire, cessé d'exister. Et après, si on peut s'étendre à une plus grande échelle au niveau mondial, on va avoir la péninsule ibérique où les Espagnols, les Portugais pratiquent notamment le gémage. Après, il y en a aussi en Asie avec de très grandes exploitations. Bah, ça va avec la taille du territoire. Et de très grandes exploitations en Chine, par exemple. Je sais qu'au Brésil aussi, il y a d'énormes, parcelles qui sont gémées. Et c'est principalement dans ces coins-là que je viens de vous citer que le gémage est le plus abondant, on va dire.
Tu nous as parlé de la résine. Est-ce que dans l'arbre, c'est la résine et la sève, c'est la
même chose ? Non, en fait, c'est deux choses totalement différentes. En fait, les feuillus vont avoir que de la sève, et les conifères, donc ça va du sapin au pin, toutes les arbres qui ont des épines, on va dire. Et c'est pour faire très simple et varié. Enfin, très très simple, plus simplement. Et du coup, les conifères, eux, ont aussi de la sève, mais ils ont une particularité, c'est qu'il y a de la résine en plus qui va servir. En fait, la résine, c'est un petit bouclier, on va dire. Dès qu'on va faire une blessure sur l'arme, la résine va sécréter tout de suite pour venir refermer la plaie.
Et alors, jusqu'à quand es-tu en stage ici ?
Donc, j'ai commencé mon stage le 8 mars et je le finis le 8 septembre. Donc, okay. Ça fait que c'est une totalité de six mois.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire plus précisément les missions que tu manes en ce moment ?
comment dire, bah ça, en ce moment, ça va beaucoup être un travail de collaboration avec Aïcha que vous avez eu juste avant. Mmh. Et donc ça va passer par de la cartographie. En fait, mon travail en cartographie va consister à, on va dire par exemple, repérer la ressource en pin maritime qu'il y a sur les forêts, bah notamment du Rouvergue et de l'Aumol, c'est les deux forêts sur lesquelles je travaille. Il y a du coup donc tout ce travail de cartographie avec la ressource en pin maritime, mais aussi en fonction, par exemple, des unités de gestion. Donc ça va être si c'est des parcelles qui sont en amélioration, en régénération. Il y a aussi la, comment dire, différentes caractéristiques sur le bois, si c'est un gros bois, un petit bois ou un bois moyen. Et ensuite, il y a les, en fonction des unités stationnelles. Donc, on va dire que ça, c'est plus pour les caractéristiques du sol. Donc, ça va être des caractéristiques très souvent, bah, de ce que j'ai remarqué de mes recherches, un sol mezzo-méditerranéen ou alors supra-méditerranéen, siliceux. Et après, cela peut varier avec du sec, du frais. C'est en fait diverses caractéristiques s'appliquent et s'adaptent, on va dire, au pin. Enfin, c'est plutôt le pin qui s'adapte en fonction de ses caractéristiques. Et après, en fait, dans notre travail de collaboration qu'on va avoir avec Aïcha, on va pouvoir déterminer quelles parcelles sont les mieux adaptées en fonction du pin et des diverses caractéristiques de la parcelle pour savoir où est-ce que le gémage va être le plus approprié, quoi.
Donc ça, c'est la question à laquelle tu dois répondre avec ce stage.
C'est ça, exactement.
Et tu viens de parler, donc tu collabores du coup avec l'INRAE, avec Aïcha. Est-ce que tu es en contact aussi avec d'autres structures pour mener ton travail?
Oui. Alors c'est très varié. Donc ça va des propriétaires privés de forêts. Après, par exemple, il y a la station thermale Foumad basée à côté d'Alès. Je connais pas très bien la région.
Oui,
du coup,
c'est
à côté de Alès, il me semble, qui est pareil intéressé. La distillerie Bel Air, par exemple, aussi, s'intéresse à notre sujet. Bah, parce qu'en fait, la distillerie est essentielle pour extraire justement la térébenthine et la colophane, en fait, des poches que nous allons récolter. Mais après, il y a, bah, par exemple, vous, Virginie, avec qui je suis amenée à travailler aussi. Et c'est tout un tas d'acteurs qui se regroupent. Et au final, la coopération entre toutes nos parties vont réussir à aboutir sur la réalisation de cette filière. Normalement, on espère.
Et justement, qu'est-ce qu'il te reste à mener comme mission et comme activité d'ici la fin de ton stage?
Alors, il va falloir déjà que je finisse toute la partie cartographie, parce que, d'accord, en fait, pour l'instant, les données que j'ai sont très générales, et pour produire quelque chose de très précis, on va dire que j'attends plus ou moins les résultats que Aïcha va pouvoir me donner. Après, il faut aussi que je rencontre toutes les différentes parties, puisque par exemple la station thermale ou la distillerie, ainsi que les propriétaires privés, j'ai eu que des contacts par mail avec eux, mais il faudrait qu'il y ait vraiment un vrai contact physique et pour savoir si c'est vraiment sérieux. Et après, bah, il y a mine de rien une partie qui est assez conséquente, c'est toute la partie terrain où les échantillonnages, les premiers tests, tout ce genre de choses ont été élaborés. Aussi, j'ai oublié de citer Biogem qui est un peu notre mentor, on va dire. C'est une entreprise qui gemme déjà en fait dans le golfe de Gascogne avec par l'intermédiaire de Monsieur Leneveu. Et en gros, c'est cette personne qui va venir nous initier plus ou moins au gemmage dans les Cévennes. Et donc cette partie de terrain sera préparée en collaboration justement avec Monsieur Leneveu.
On a parlé, voilà, avec Aïcha, effectivement, du programme du Biogem qui fait partie, voilà, du laboratoire Holist, pour accrocher tout ça.
Oui, voilà, c'est ça exactement. Oui, c'est la petite partie que j'ai oublié de préciser.
Et d'après toi, à ce stade, est-ce que tu vois un avenir pour le gemmage en Cévennes?
Pour être franc, à l'heure actuelle, je pense que c'est encore un peu tôt pour se prononcer.
T'as copié sur
Aïcha. Sur le papier, il ne devrait pas y avoir de raisons qui font que cela ne pourrait pas avoir lieu, mais c'est tant que on n'a pas des résultats scientifiques ou que c'est prouvé vraiment, pas. Je préfère pas prendre le risque de m'énoncer sur le sujet.
Ouais. Non mais ça c'est une attitude scientifique tout à fait appréciable. Mmh. Voilà, le doute. Hein,
toujours.
C'est parfait.
Et l'optimisme aussi. Ça fait partie de la science. Et donc merci Léo. Donc on va finir sur le petit mot forestier.
Ah oui, oui, c'est vrai. Bah alors comment je pourrais amener la chose? Alors oui, bah voilà, c'est pour vous pour dire que, par exemple que en fait la forêt pour la forêt en général, que ce soit une forêt de montagne, une forêt de plaine, une forêt de côtière, n'importe quoi, ou n'importe quel espace végétal plus ou moins pour faire large, il ne faut pas avoir d'idées fixes et d'idées arrêtées sur la forêt. C'est un écosystème vivant et mouvant. Et là où elle est aujourd'hui, ça se trouve, elle y sera plus demain, comme elle a été là hier. Bah, les Cévennes en est un très bon exemple. La forêt n'était pas présente il y a 250 ans. Les mineurs l'ont implantée, ça fait que ça crée un nouvel écosystème. Et ce n'est pas quelque chose qui reste figé dans le temps. Et c'est que là où je pense on a un petit peu de mal, c'est qu'à échelle humaine, on a du mal à imaginer plus ou moins l'évolution d'une forêt, alors que ça, normalement, une évolution de forêt se fait sur plusieurs générations. Je ne sais pas si ça a été très clair ce que j'ai expliqué. Si.
Merci Léo.
Merci Léo, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Dans quelques instants, nous allons retrouver Aymeric Sulmon, le garde-moniteur du parc national des Cévennes. Mais avant, nous allons faire une petite pause musicale avec les Balkans Beatbox. Quand est-ce qu'on arrive ? Retour dans Palabre en forêt, donc nous allons retrouver Aymeric Sulmon. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on te retrouve pour ta rubrique Plantes des bois. Donc j'imagine que tu vas nous parler un petit peu du pin, étant donné qu'on a parlé de ça, mais pas que.
Oui, alors j'avais envie de revenir sur le pain parce que hier j'ai rencontré une personne qui a la haine du pain et me suis toujours demandé mais pourquoi aimer, détester quelque chose qui est abondant en ses veines. On n'a pas trop le choix, il est là. Oui. Il est là parce que la forêt est un peu jeune. Et alors on l'accuse de tous les maux ce pain parce qu'on considère qu'il acidifie le sol. Et oui, certes, il acidifie le sol, mais en fait c'est un peu une étape incontournable pour préparer une forêt plus mature, sans doute avec plus de feuillus et avec des humus qui seront moins acides. Mais là, il fait avec ce qu'il a et la roche est acide, il peut pas faire un sol
qu'il a adapté.
Il s'adapte. Et donc, il faut être patient, il faut au moins 80 ans pour passer à autre chose que du pain. On l'accuse aussi de boire toute l'eau de nos rivières, ce pauvre pain. S'il n'était pas là, il y aurait beaucoup plus d'eau dans nos rivières. Et ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'un arbre, quel qu'il soit, en fait, on dit qu'il boit entre 50, 100, 150 litres par jour d'eau. Mais c'est une eau qui va chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus profond que l'herbe. Et puis dans des interstices beaucoup plus étroits que les herbes classiques. Parce qu'il est en association avec des champignons. Et donc cette eau-là, de toute façon, n'est pas disponible pour le ruissellement. Donc il boit beaucoup, certes, mais il a énormément d'avantages parce qu'il fait de l'ombre. Il l'empêche de perdre de l'eau sur les sols, justement, en faisant de l'ombre. Et on voit très bien que l'herbe est beaucoup plus verte, appétante, sous les arbres. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit peu un petit clin d'œil au réchauffement climatique. On ne fera pas sans les arbres. Dans les pâturages d'avenir, le pâturage d'avenir, ce sera un pâturage avec des arbres pour avoir une herbe un peu plus appétante.
Oui, le sylvopastoralisme.
Et enfin, on l'accuse, ce pain-là, d'être très inflammable. Ça, c'est vrai. Oui, il y a de la résine, ça brûle plus facilement. Mais il est d'autant plus inflammable qu'il est jeune. Qu'il est jeune et maltraité, entre guillemets. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui détestent le pain veulent absolument le voir disparaître et donc ils coupent tout d'un coup. Et en coupant tout d'un coup, on ne fait rien d'autre que planter tout un tas de jeunes pins. Et donc si on veut réellement passer à autre chose, eh ben, il faut au contraire laisser des vieux pins. Parce qu'il y a un petit adage qui dit que le meilleur ennemi du jeune pin, c'est un vieux pin. Et à l'ombre des vieux pins, ben, les jeunes pins ne poussent pas. Donc, il ne faut pas tout couper. Il faut loin s'en faut. Il faut essayer de conserver un maximum de vieux pins. C'est eux qui vont préparer une forêt d'avenir. Quand ils vont mourir, ils vont créer des sols qui seront beaucoup plus fertiles.
Donc, il faut bien mettre en place de la gestion forestière, de la sylviculture, pour, si on veut, éliminer un minimum de pins.
En diversifiant les usages aussi de ce pin et en améliorant la sylviculture, c'est en évitant les coupes à blanc ou les coupes ultra sélectives où on fait disparaître le pin. On ira sûrement dans un meilleur sens et dans des forêts plus diversifiées, ça c'est certain. D'accord. Et puis un petit rappel, même si c'est un pin, avec ses feuilles, avec sa litière qui est acide, il limite quand même énormément l'impact du ravinement quand on a des grosses crues. Il vaut mieux une forêt qu'un sol nu, ça c'est une évidence. Oui. Voilà, ça c'était pour le petit rappel sur la haine du pin. Je ne sais pas si un jour les gens vont finir par l'aimer, mais j'espère bien.
On est tout en place pour.
Et prochainement, je fais la pub un peu parce qu'on aura bientôt le concours Sylvotrophée, où on va justement parler de sylviculture en Cévennes. Et pour rappel, le dernier lauréat de ce concours, c'est quelqu'un qui avait du pin, qui n'a pas choisi de tout faire disparaître, mais qui a fait avec. Il a fait avec la présence des pins et il a sélectionné, il a choisi les plus gros pins. Il a été récompensé pour avoir eu un choix assez audacieux, en fait, et qui prend en compte ce qu'il avait comme l'existant.
Oui, pour rappeler les dates, peut-être.
Alors, le jury se déplacera, si mes souvenirs sont bons, le 26 et 27 mai. Et on ira on fera des grands écarts, puisqu'on ira à Saint-Frézal de Ventalon, on ira sur la commune de Banne, en Ardèche.
Le 26.
On ira aussi à Fretma sur le Cosméjean et à Soustelle dans le Galaison. D'accord. C'est donc un peu tout ça à l'extrême du parc. Voilà pour ce qui est du pain. Et j'avais envie de faire un petit... comme vous accueillez là deux stagiaires, je crois qu'il y a Léo de Picardie et Aïcha de l'île Maurice.
C'est ça.
Et alors, la provenance de Aïcha m'a fait penser à c'est une sorte de clin d'œil que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, est-ce qu'entre l'île Maurice et chez nous, on a des plantes communes ?
Alors ?
Et la question, oui, on en a énormément, si on compte les espèces dites invasives et et on verrait celles qui nous encombrent un peu, et notamment dans les îles Mascareignes, dont l'île Maurice fait partie. Nous, on a importé, les Européens, énormément d'espèces qui sont très encombrantes là-bas. Je pense au genêt à balai ou le lajon, et qui posent de véritables problèmes parce qu'ils prennent la place des espèces locales qui sont très menacées. Mais on a aussi des espèces qui sont tout à fait autochtones, qui sont là depuis des milliers d'années, aussi bien sur l'île Maurice qu'en Cévennes. Et je pense à une fougère qui s'appelle l'osmonde royale. Et cette fougère, elle est à la fois présente dans les ravins de l'île Maurice et dans nos ravins du versant méditerranéen. Et c'est une des plus belles fougères, d'après un botaniste du début du 19e. Il parle que c'est la plus belle fougère d'Europe. Et elle est connue en fossiles, des fossiles du Crétacé. Elle est exactement la même espèce il y a 65 millions d'années. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas beaucoup évolué. Et c'est probablement pour ça qu'elle est répartie quasiment dans tous les continents sauf l'Australie.
Pourquoi ? On sait pourquoi ? Elle n'a pas été introduite ?
Alors, comment voyage cette fougère ? Les fougères, elles se reproduisent par des spores. Les spores, c'est quand même des choses assez petites. On peut imaginer que les oiseaux sont des bons vecteurs. Le vent peut-être aussi, mais bon, sur 65 millions d'années, peut se passer beaucoup de choses, quoi. Ouais, ouais. Et donc, ça peut permettre de coloniser une bonne partie de la planète. Et ce qui est intéressant, cet osmonde, je fais un petit détail. Moi, je me suis amusé à chercher l'étymologie, parce que des fois, on ne comprend rien pourquoi ça s'appelle osmonde. Et alors, il y a eu plein de quand on cherche l'étymologie d'un nom, on ne sait pas, on émet plein d'hypothèses. Il y en a une qui parlait, alors que ça vient d'os et de moment d'arrêt. Enfin bref, ils font de l'étymologie grecque et puis ils disent que os, c'est, si je me rappelle bien, la bouche, et mundare, purifié. Soi-disant, il y a un usage pour faire des bains de bouche purificateurs. Et en fait, cet usage est complètement fantaisiste par rapport à un auteur. Et donc, la meilleure proposition... Ouais. C'est celle d'un site que j'ai trouvé en Afrique du Sud. Hein, les Africains du Sud, ils ont fouillé un peu l'étymologie. Et il y a tout simplement un roi du 8e siècle après Jésus-Christ, du sud de l'Angleterre, qui s'appelait Osmonde, qui est donc roi. Et donc Osmonde royal, ça collerait assez bien. Et dans cette région, il y a également de l'osmonde royal. Donc ça pourrait, et on peut imaginer peut-être que ce petit roi qui était dans le Sussex, hein, c'est une région du sud de l'Angleterre, il avait peut-être pour emblème royal cette fougère, on ne sait pas trop. Là, il va falloir encore creuser. Voilà, en autre application de cette plante qui est relativement commune sur les belles rivières Cévenoles, il y a, j'ai envie de citer un auteur là qui s'appelle Fournier, qui avait fait un travail sur les plantes médicinales. Il disait qu'en Alsace, on utilisait l'osmonde contre la maladie des porcs, d'où ce nom local de Sopharne. Et autrefois, on faisait des feuilles bien séchées, des lits pour les enfants délicats et rachitiques, et pour les rhumatisants chroniques, qui s'en trouvaient d'ailleurs fort bien. Voilà. Donc si vous voyez de l'osmonde, vous pouvez tenter une litière avec, mais enfin c'est une belle fougère qu'il vaut mieux protéger et la laisser tranquille. Et dernier emploi très ancien, on pouvait broyer les racines de cette osmonde pour raidir le linge. un usage qu'aujourd'hui on n'utilise pas trop, avoir des linges raides, je ne sais pas quel est l'intérêt, mais à l'époque peut-être, pour avoir
remplacer le fer à repasser
peut-être. Ouais, peut-être. Voilà, alors pourquoi ça fait écho à l'île Maurice ? Donc ça, c'était par rapport à l'osmonde. Et après, je vais faire un tout petit lien par rapport à tout ce qui a été traité sur la chimie un peu des espèces. Il y a une autre plante, mais il y en a plein d'autres, hein, sans doute, qui est tout à fait... qui est aussi présente à l'île Maurice et chez nous. C'est une mousse. Pour être plus précis, c'est une hépatique qui... Dans l'intérieur de son thal, parce que c'est une hépatique à thal, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, contient des corps gras. Et dans ces corps gras, les scientifiques ont fait des recherches et ils ont mis en évidence que ça pourrait éventuellement être utilisé contre le cancer. Et ils ont fait ça a des propriétés, en tout cas, qui limitent la multiplication des cellules cancéreuses. Tout ça pour dire qu'en fait, on y connaît encore trop peu sur la chimie des mousses et il y a encore énormément de travaux en cours sur les propriétés très multiples des huiles essentielles que produisent ces petits organismes qui sont minuscules et insignifiants, mais qui sont très intéressants. Après, toute la délicatesse, c'est que Une mousse, ça ne se cultive pas comme le pin maritime. Et donc, l'exploitation de ces huiles essentielles chez les mousses sera un peu plus compliquée. Oui. Voilà, enfin, ça faisait le lien, en tout cas, avec chimie et pin maritime.
Très bien.
C'est tout.
Ben, merci, Aymeric.
Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Vous êtes toujours sur Radio Barta 107FM et cette émission de Palabres en forêt s'achève. Merci, Lucille, et au revoir.
Au revoir, Virginie.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée. Tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabres en forêt. L'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Bartas
107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.